Les grandes heures de la France, chapitre 3e, le siècle de Saint-Louis, par Octave Aubry. Philippe Auguste. La royauté capétienne, pendant un siècle coite et prudente, s'assied définitivement sous le règne de Louis VI, gros homme actif, qui, aidé par son ami d'enfance, l'abbé de Saint-Denis, suggère, châtie dans son domaine les barons devenus bandits de grand chemin. Mais son successeur, Louis VII, semble bien plutôt un jeune moine qu'un prince. Timide et scrupuleux, dans tout ce qu'il entreprend, il échoue. Marié à Aliénor d'Aquitaine, il divorce et celle-ci va porter ses domaines à Henri Plantagenet, déjà comte d'Anjou et duc de Normandie, qui hérite de l'Angleterre 2 ans après. C'est un désastre. Henri, maître de nos côtes depuis la Somme jusqu'à l'Adour, possède un domaine 8 fois plus étendu que le domaine royal. Il n'est plus un grand vassal, il réunit en lui seul presque tous les grands vassaux. Louis VII a bien conscience de l'immense péril qui menace et sa dynastie et la France. Non sans courage, il combat le Plantagenet qui s'est aliéné son peuple et Rome par l'assassinat du primat d'Angleterre, Thomas Becket. Les fils d'Henri s'étant révoltés contre leur père, le Capétien les défend. Par ce moyen, il peut tenir en respect l'adversaire. Quand il s'éteint, en 1181, tout est compromis. Rien n'est perdu. Paraît alors dans le jeune homme de 15 ans son héritier, un très grand prince, Philippe Auguste, qui va tout sauver. La double chance des Capétiens pendant plus de 3 siècles, c'est qu'ils ont toujours des fils pour occuper le trône, et c'est aussi qu'un roi faible ou malhabile succède chaque fois un souverain visé et heureux. Ainsi a-t-il été de Louis VI, ainsi de Philippe Auguste, ainsi de Saint-Louis, ainsi de Philippe le Bel. Philippe Auguste est un adolescent dur, avide, impétueux. Il ne sait pas écrire, ignore le latin. Grand, à larges épaules, le visage régulier, haut en couleur, vif dans ses mouvements, il est bon et hardi soldat. Il aime la bonne chère, dit son contemporain Gastineau, le vin et les femmes. Très tôt mûri, il se montre vite prévoyant et opiniâtre. Il a le jugement prompt et sain. Libéral envers ceux qui le servent, il n'aime point les seigneurs. Ample surtout à ses affaires des petites gens. Sa règle est l'intérêt. Tour à tour rancunier et oublieux selon les circonstances, il cache ses pensées, attend, dissimule, et le moment venu fond sur l'occasion. Tous les Capétiens qui l'ont précédé s'effacent devant ce grand roi politique. Pour nous, avec le recul du temps, Philippe Auguste semble le fondateur de la nation française. Philippe reprend la lutte contre Henri Plantagenet. En face de ce colossal ennemi, le jeune roi de France paraît bien dépourvu. Mais il est son suzerain. Cet ascendant qu'il tient du système féodal, il va en jouer comme une adresse consommée. Contre l'époux d'Aliénor, il encourage ses 2 fils rebelles, l'un, Richard Cœur de Lion, brut héroïque, l'autre, Jean sans terre, scélérat parfait. Henri Plantagenet finit par mourir de chagrin dans son château d'Azay-le-Rideau. Henri mort, Philippe Auguste oppose les 2 frères l'un à l'autre. Il incite Jean sans terre à s'emparer de la couronne anglaise en absence de Richard, qui guerroie en Terre Sainte. En récompense, Jean cède à Philippe quelques bonnes villes. Le retour de Richard met les 2 complices en grand embarras. Mais Cœur de Lion meurt peu après dans un siège obscur. Jean sans terre, ayant assassiné son neveu Arthur de Bretagne, Philippe le cite devant sa cour pour répondre de son crime. Jean ne se présente pas. Il est condamné à mort par défaut et la cour prononce la confiscation de tous ses fiefs. Il appartient maintenant au roi, grand justicier, d'exécuter la sentence. Philippe s'y emploie de son mieux. Il envahit la Normandie et après 6 mois de siège, s'empare de sa plus grande forteresse, le château Gaillard. Rouen capitule. Il réduit ensuite le Maine, l'Anjou, la Touraine, le Poitou, qui résistent moins. Lâche et adonné au plaisir, Jean sans terre mérite à présent son nom. Il est réduit à signer une trêve. Philippe garde ses conquêtes. L'étape qu'il vient de franchir est capitale. Son domaine direct en est quintuplé. Le misérable Jean essaiera pourtant de prendre sa revanche. En 1214, il réussit à former une ligue avec son neveu l'empereur Otto IV de Brunswick, le comte de Flandre, les ducs de Brabant et de Lorraine. Crise infiniment dangereuse. C'est ensemble une riposte de la haute féodalité contre les Capétiens et une véritable coalition européenne, la première, contre la France. Philippe Auguste approche le pape Innocent III. Il a aussi, surtout, le sentiment national très net, très fort, et qui groupe autour de lui, dans cette occasion mémorable, à côté d'une imposante chevalerie, les alertes milices des villes, l'armée du peuple, qui va combattre du meilleur de son cœur. Ici, Philippe paraît bien moins en roi féodal qu'en souverain moderne. Le chef des Français unis par le péril et qui vont lutter coude à coude contre l'invasion étrangère. La France à Bouvines. Les deux armées se rencontrent le 27 juillet au pont de Bouvines entre Lille et Tournai. Philippe n'a guère que 25 000 hommes, les alliés 80 000. N'importe, il accepte la bataille et saute à cheval. Au soir, après un terrible corps à corps, les chefs des deux ailes ennemies, le comte de Flandre et le comte de Boulogne, sont faits prisonniers. Les restes de l'armée se dispersent. Victoire, claire et belle victoire française, la première vraiment de nos grands succès nationaux. Revenant vers Paris, sur son passage, Philippe Auguste est acclamé par une foule bigarrée. Moissonneurs accourus des champs, moines sortis de leurs cloîtres, marchands qui quittent leur éventaire, seigneurs et dames des châteaux, avec une joie commune éclatante. Pour le recevoir, toutes les villes se pavoisent d'oriflammes, les maisons s'ornent de tapisseries et de guirlandes, les chemins se couvrent de fleurs. « Ah, Ferrand !» crie le peuple au comte de Flandre, qui suit l'armée, enchaîné sur un mauvais chariot. « Ah, Ferrand, te voilà ferré ! Tu ne rejameras plus contre ton maître. » Mot significatif, une autre époque a commencé pour le pays. Philippe meurt précocement à 58 ans, ayant non seulement réparé, mais construit. Ce XIIIe siècle, l'époque la plus représentative du Moyen-Âge français, a été ainsi ouvert par un prince qui n'est pas dominé par l'esprit de chevalerie, qui se bat à l'occasion et bien, mais qui calcule, négocie, administre mieux. Lui et Philippe le Bel semblent les piliers trapus sur qui repose l'ogive idéaliste de Saint-Louis. Son fils, Louis VIII, bien terne au regard d'un tel père, ne règne que 3 ans. Il meurt en 1226, laissant le trône à un enfant de 12 ans, Louis IX, sous la tutelle de la reine, une Espagnole dure et sage, Blanche de Castille. Saint-Louis. Cette étrangère va être la plus grande reine qu'a eue la France. Elle tiendra fermement dans ses mains fines le sceptre des Capétiens, au moment qu'il est le plus menacé par de nouvelles révoltes des seigneurs appuyés sur l'Angleterre. Mais son premier mérite aux yeux de l'avenir est d'avoir formé l'âme de son fils, d'avoir aidé cet adolescent à devenir un homme, un roi et un saint. Car cette noble figure est la plus haute expression, la plus complète et la plus délicate du Moyen-Âge, sa flèche et son symbole. Ici, l'histoire doit s'arrêter un instant. Nul siècle, nul pays n'a produit jamais personnalité si parfaite. Elle mérite qu'on se taise et l'adore. Que le Moyen-Âge l'ait enfantée montre bien que ce ne fut point une époque barbare, mais un temps de suprême spiritualité. Très grand, maigre et fragile, portant sur un long col un visage point très régulier, mais affable, gracieux, d'un charme profond, Louis IX, arrivé à l'âge viril, va déployer une sagesse, une loyauté, un équilibre, un soin de son état, et surtout une équité, un amour des pauvres et des faibles, qui obligeront tous ses contemporains, amis ou adversaires, plus qu'au respect, à la vénération. Les féodaux et l'anglais encore réunis l'attaquent en Aquitaine. Ils leur courent sus, les bat, les obligent à se disperser. Pendant quelques années, il peut se consacrer à ses devoirs royaux, mais bientôt le prince et le politique s'effacent devant le chrétien. Avant la quatrième croisade et la fondation de l'Empire latin de Constantinople, les Turcs se sont emparés de nouveau de Jérusalem. Louis sent alors grandir en lui l'appel de la Terre Sainte. Au cours d'une maladie qu'il a laissée pour mort, au point qu'on va tirer le drap sur son visage, il se réveille soudain dispos et, pour remercier Dieu, requiert la croix. Sa mère a beau le remontrer, mener grand deuil, il ne l'écoute et, après de longs préparatifs, lui laissant la régence, fait voile d'Aigues-Mortes vers Chypre avec une belle armée. Le roi prisonnier. Où attaquer l'infidèle? Sur l'avis de ses conseillers, Louis se décide pour l'Égypte. Menacer le Caire, pense-t-il, lui livrera Jérusalem. Sur la plage dorée de Damiette, où s'est postée la cavalerie fougueuse des Mamelucs, Louis et ses chevaliers, se jetant à l'eau dans leurs armures, plantent leurs lances comme une haie et repoussent avec vigueur de furieux assauts. Damiette est occupée. Il faudrait marcher sur le Caire sans attendre la crue du Nil. Mais on perd des mois, et quand l'armée s'ébranle enfin, elle n'avance qu'avec mille peines dans le delta coupé de canaux. Les vivres manquent, la peste et le scorbut déciment les croisés, le roi lui-même atteint commande la retraite. Ce retour est horrible, l'armée traîne ses mourants le long de la côte. Cependant Louis négocie avec les émirs. Comme il espère conclure une trêve, par trahison, il est fait prisonnier. Ramené à Damiette, en butte aux menaces et presque aux sévices, son courage et sa piété finissent par toucher les chefs musulmans qu'il relâche contre rançon. Damiette pour lui-même et 400 000 livres pour ses chevaliers. Louis gagne alors la Terre Sainte où 4 ans il besogne sans éclat pour sauver les débris du royaume franc. Il n'a pas la joie d'atteindre Jérusalem. La mort de sa mère, qu'il apprend à Jaffa, l'oblige à se rembarquer. Le justicier. Revenu en France, pendant ces années, il la gouverne avec une pondération, une douceur qu'on n'a jamais retrouvée. Il veut assurer d'abord la paix extérieure. Dupe de sa bonne foi, il restitue aux Anglais le Limousin, le Périgord, la Saintonge, le Quercy, la Genêt. La faute dans le temps même paraît lourde. On en verra les effets. Mais justice, fermeté, modération, bonté sont à ses yeux les premières vertus royales. Il le dit dans les enseignements qu'il composera un peu plus tard pour son fils aîné. « Si tu viens régner, efforce-toi d'avoir ce qui convient au roi, c'est-à-dire tiens très rigidement à la justice et à la droiture, et sois loyal envers ton peuple. Aie le cœur doux et pitoyable aux pauvres et à tous ceux que tu croiras avoir souffrance de cœur ou de corps. Donne-leur réconfort selon ton pouvoir. » La justice, Saint-Louis en a le sentiment exquis, une espèce d'instinct qui perce à travers tous ses actes et le fait apparaître en Europe comme un arbitre naturel. Le pape l'appelle le messager de la paix. Ce messager, il l'est dans la querelle du roi d'Angleterre et de ses barons, dans la lutte que soutient l'empereur Frédéric II contre le pontife romain, dans les nombres différents qui s'élèvent entre les grands vassaux français. Il l'est plus encore dans la magistrature paternelle qu'il assume à l'égard de son peuple. Il exige des plus hauts seigneurs, de ses frères même, le respect des droits d'autrui et l'obéissance à la couronne. Roi féodal, il ne cherche pas, comme le feront bientôt ses successeurs, à détruire la féodalité. Il est pénétré de son esprit, il lui sera toujours fidèle. Mais il entend qu'elle observe ses devoirs, qu'elle accomplisse son rôle social et serve à protéger la vie, les biens, le travail des bourgeois et des paysans. Il s'oppose aux guerres privées. Il interdit le duel judiciaire, crée pour toute procédure des degrés d'appel et institue une juridiction suprême, celle du Parlement. Le Parlement, à l'origine, c'est la cour du roi prise comme tribunal. Composé d'abord, puisqu'il est la cour, de barons et d'évêques, le Parlement voit bientôt tout le travail utile accompli par de petites gens, laïcs ou ecclésiastiques qui assistent ces seigneurs, peu appliqués ou ignorants. On les appellera les légistes. Pénétrés des principes et de la grandeur du droit romain, ils vont tendre à faire du roi de France, par une lutte discrète et tenace contre l'esprit féodal, l'héritier politique des Césars. Le roi et l'homme. Si pieux qu'il soit, Saint-Louis sait, quand il le faut, défendre hautement les droits de la royauté contre les empiétements de Rome et remettre en droit chemin les évêques qui trébuchent en leur ministère. On ose lui résister. Sa sainteté a trop d'évidence. Elle rayonne sur la chrétienté entière. La royauté française en prend un merveilleux prestige. Le roi d'Angleterre se déclare fier d'être le vassal de Louis. L'empereur allemand, si hautain, accepte ses remontrances. Le pape réclame sa protection. Le trône de France, écrit Joinville, resplendissait au regard de tous les autres. Joinville, sénéchal de Champagne, vaillant soldat et avisé prud'homme, bien qu'attaché aux complaisances de la terre, a peint en une série de miniatures, éclatantes encore de fraîcheur et de grâce, l'existence de ce roi qui fut son ami, de ce saint qui n'a cherché la gloire que dans la modestie, et qui passa ses années terrestres à servir, consoler, aimer. Dans son petit livre, composé dans le vieil âge, et sur qui souvent sont tombées ses larmes, surgit à jamais vivante cette pâle et lumineuse créature, impérissable au nord de la France, qui, tout en s'efforçant d'échapper aux faiblesses de l'homme, est demeurée si fidèle à la communauté humaine qu'elle lui sert encore aujourd'hui d'exemple et de témoin. « Il aima tant la vérité, écrit Joinville, qu'il ne voulut pas refuser, même aux Sarrasins, ce qu'il leur avait promis. Il fut si sobre sur la bouche que jamais je ne l'entendis parler d'aucun mets comme font maints riches hommes, mais il mangeait patiemment ce que ses cuisiniers apportaient devant lui. Il fut modéré dans ses paroles, car de ma vie, je ne l'entendis dire du mal de personne. Maintes fois, il advint qu'en été, il allait s'asseoir au bois après sa messe et s'accotait à un chêne. Et tous ceux qui avaient affaire venaient lui parler sans empêchement d'huissier ni d'autres gens. Et quand il voyait quelque chose à amender dans le discours de ceux qui parlaient pour autrui, lui-même l'amendait de sa bouche. Je le vis soudain venir, pour rendre justice à son jardin de Paris, vêtu d'une cotte de camelot, d'un surtout de tyrtaine sans manches, d'un manteau de taffetas noir autour du cou, bien peigné, et un chapeau de plumes de pan blanc sur sa tête. Il faisait tendre un tapis pour nous asseoir autour de lui. La mort du saint. Cette vie inimitable trouve son sommet dans un vain mais noble sacrifice. Saint Louis se croit toujours lié par son vœu. Les dernières villes de Terre Sainte, une à une, sont tombées aux mains de l'émir du Caire. Après Césarée, Sidon, Jaffa, Antioche. Trop d'images, trop de regrets se lèvent dans l'âme du saint. Il ne résiste pas à leur mystérieux appel et reprend la croix. Il la reprend en dépit de l'opposition de sa famille, de la plupart de ses barons, de la tiédeur du pape. Même Joinville, son fidèle, refuse de courir des hasards nouveaux. Ceux-là, écrit-il amèrement, qui conseillaient au roi l'entreprise de la croix, firent très grand mal et péchèrent mortellement. Car sitôt qu'il fut hors du royaume, tout commença à décliner et à empirer. De plus, le bon seigneur était si faible et débile de sa personne qu'il ne pouvait supporter d'aller en char ni chevaucher, et il souffrait que je le portasse dans mes bras depuis l'hôtel du comte d'Auxerre jusqu'au Cordelier. Et cependant, faible comme il l'était, s'il fût demeuré en France, il eût pu vivre encore assez et faire beaucoup de bien. N'ayant ainsi que le souffle, Saint-Louis va prendre à Saint-Denis l'oriflamme de guerre et les insignes du pèlerin. Ses trois fils, bon gré malgré, l'accompagnent. Il aborde le 17 juillet 1270 à Tunis et se rend assez aisément maître du château fort de Carthage. Mais les Sarrasins assaillent le camp des croisés. Saint-Louis, se sentant mourir de la dysenterie qui décime l'armée, confie le royaume à Philippe, son fils aîné. Sa pensée suprême va vers ses compagnons d'armes. « Beau Sire Dieu, supplie-t-il, et merci de ce peuple qui ici demeure et le conduit en son pays, qu'il ne tombe au pouvoir de ses ennemis et ne soit entraîné à renier ton saint nom. » Le délire le prend peu après et on l'entend soupirer. « Nous irons à Jérusalem. » La conscience revenue, par humilité, il se fait placer sur un lit de cendres et là, une croix de bois sur la poitrine, expire en disant « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Ainsi meurt ce chevalier qui sut unir tous les devoirs terrestres avec les exigences de la foi. Ainsi s'achève ce beau règne si utile, si généreux, si français. L'Église, 27 ans après sa mort, élèvera Louis IX au rang de ses saints. Elle ne fera que ratifier le vœu universel. Il faut bien le répéter, l'influence de la France n'a jamais dominé le monde avec un éclat aussi pur que sous Saint-Louis. Ce n'est point par la force, c'est par l'esprit qui seul dans la durée prévaut. Le roi français apparaît alors en Europe comme le vrai suzerain des princes d'Occident. Il est comme l'âme de la civilisation née de la croix. Un souverain politique, Philippe le Bel. Philippe le Hardi passe comme une ombre entre Saint-Louis et Philippe le Bel. Celui-ci, petit-fils du saint couronné, semble séparé par plusieurs siècles de son aïeul. À 15 ans seulement de distance, il lui oppose le plus saisissant contraste. Avec lui, la monarchie française, descendant du vitrail, prend des formes délibérément laïques, entre dans des voies d'autorité que domine non plus la justice, mais la loi, et trop souvent, hélas, la loi au service de la tyrannie. Fort jeune encore, 17 ans, grand, robuste et pâle, avec un visage grave et des cheveux clairs, Philippe est habile aux exercices du corps. S'il n'est plus tout à fait un chevalier, il est encore un vrai soldat. Mais sa contenance est froide, sa parole réservée. Il a le goût précoce du dessin, la science du secret. Chez cet adolescent réaliste, l'intérêt de la couronne prime tout. Appuyé sur ses légistes, Guillaume de Nogaret, Pierre Flotte, Enguerrand de Marigny, conseiller imbu de la tradition romaine, profondément hostile à l'éparpillement féodal, Philippe ne cessera de lutter contre tout ce qui menace ou affaiblit l'autorité royale, au temporel comme au spirituel. Il va combattre les grands féodaux, toujours plus ou moins allié aux Anglais, il va combattre le pape qui veut lui imposer sa tutelle. Enfin, il va resserrer les cadres encore lâches de la France et lui donner une administration qui centralise le pouvoir. Entre la France et l'Angleterre, la rivalité reste profonde. L'Angleterre tient à écarter les Français de la Flandre, le riche pays de Tisserand à qui elle vend ses laines. Elle suscite sa rébellion. Philippe essaye de la réunir au domaine royal. Mais les Flamands font belle résistance. Après une âpre lutte, ils se contentent d'annexer Lille, Douai et Béthune. Dans le même temps, le roi de France est aux prises avec Rome. Le pape Boniface VIII traite de haut les couronnes et se comporte en roi des rois. Déjà, il s'est opposé avec hauteur aux taxes levées par Philippe sur le clergé français. La querelle s'envenime. Philippe, ayant fait arrêter l'évêque de Pamiers, cessait. Le pontife publie la bulle « Osculta Fili » où il reproche au souverain ses excès de pouvoir et menace de prendre lui-même en main la réforme du royaume. L'attentat d'Anani. Philippe le Bel répond au pape dans la forme la plus injurieuse. Pour s'assurer le concours de la nation dans un conflit si grave, il convoque à Notre-Dame, le 10 avril 1302, les États généraux. Cette assemblée fameuse, qui prendra tant de relief dans l'histoire de France, et où, pour la première fois, avec un tel apparat, viennent siéger et opiner au même titre que les représentants de la noblesse et du clergé, les délégués de la bourgeoisie des villes, approuve entièrement le roi à qui il déclare ne reconnaître d'autre supérieur sur la terre que Dieu. Ainsi s'élargit le débat. Il ne s'agit de rien moins, vis-à-vis de Rome, que de l'indépendance de la France. Boniface VIII, hors de soi, excommunie Philippe par la hautaine bulle « Unam Sanctam Ecclesiam ». Philippe réplique par un coup brutal. Guillaume de Nogaret, plus avocat comme d'épée, s'assure le concours d'un chef de bande, Sciarra Colonna, mortel ennemi du pape, et se rend avec lui en force à Anani, où Boniface a cherché refuge. Abandonné par ses cardinaux et ses gardes, insulté par Nogaret, entouré par les sbires de Colonna, ce vieillard de 86 ans, dressé sur son trône, la tiare en tête et la croix à la main, garde une fière contenance. Il refuse d'abdiquer. « Voici mon cou, voici ma tête, » dit-il. « Trahi comme Jésus, s'il faut mourir comme lui, du moins je mourrai pape. » Ainsi criant attentat, ameute le peuple d'Anani qui délivre Boniface. Il rentre à Rome, mais brisé par l'émotion, la tête perdue, il succombe un mois plus tard. Sa fin tragique inscrit une date essentielle dans l'histoire de l'Église et ses rapports avec les couronnes. Celui qui a vaincu les empereurs allemands est vaincu par le roi français. Les rêves ambitieux du pontificat romain s'enfoncent dans le passé. Les Templiers. Avec la timide adhésion du successeur de Boniface, Clément V, Philippe le Bel tente alors une vaste opération, plus financière encore que politique, la destruction de l'ordre des Templiers. Depuis que ces religieux guerriers ont dû quitter la Terre Sainte, à présent livrés aux musulmans, ils sont devenus les banquiers de l'Europe. En majorité français, ils possèdent partout larges domaines, places fortes, et à l'abri de tout impôt, de toute loi, forment un véritable État dans l'État. Souvent hostiles à la papauté, ils sont craints et méprisés du peuple pour leur vie relâchée. Ces chevaliers du Christ ne se soucient plus que d'argent, d'intrigues politiques et de plaisir. Après avoir en vain essayé de devenir leur chef, Philippe agit vis-à-vis d'eux avec la brutalité et la perfidie dont il avait usé à l'égard de Boniface VIII. Le 13 octobre 1307, il les fait appréhender dans toute l'étendue du royaume. Guillaume de Nogaret arrête à Paris, dans leur forteresse du Temple, le grand maître de l'ordre, Jacques Molay, et 140 chevaliers. Les accusés comparaissent devant des tribunaux composés d'évêques, d'inquisiteurs et de baillis royaux. On leur impute tous les crimes, hérésie, adoration d'idoles, sacrilège, mœurs équivoques. La torture leur arrache des aveux, qui souvent dans la suite seront rétractés. Des bûchers grésillent par toute la France. 54 chevaliers sont brûlés à la porte Saint-Antoine, au hurlement de joie du peuple. Des centaines sont condamnés à la prison perpétuelle. Ce n'est point assez. Philippe, pour saisir les biens, veut obtenir l'abolition de l'ordre. Le pape, effrayé, se résigne. Les Templiers sont dissous. Leurs richesses sont attribuées, en principe, à l'ordre des Hospitaliers. De fait, le roi s'en adjuge la plus grande part. les trésors monnayés de la tour du temple, d'innombrables domaines et châteaux. Jacques Molay périt sur un bûcher dressé dans les jardins du palais, non sans avoir protesté devant Dieu et Notre-Dame de l'innocence de son ordre. Avant de mourir, il aurait assigné le pape et le roi à comparaître cette année même devant la justice divine. Clément V et Philippe le Bel, en effet, ne dépassent point ce délai. Un novateur. Roi des légistes et même roi procédurier, Philippe a organisé par l'ordonnance de 1302 l'administration centrale du royaume, établi aux côtés du Parlement un grand conseil et une cour des comptes qui vont durer autant que la monarchie. Ayant porté de rudes coups aux féodaux, il a, lui, le premier, appelé la nation à entériner ses décisions. Les États généraux l'ont ainsi épaulé à des moments dangereux sans être admis d'ailleurs à discuter ses actes. Si ce n'est pas là, tant s'en faut, la naissance d'une liberté, c'est du moins l'aube d'une collaboration entre le roi et le pays. Philippe le Bel apparaît donc, en plein Moyen-Âge, comme un novateur audacieux qui prépare la ruine de la féodalité et l'avènement d'une monarchie unitaire. Ces résultats dans le temporel s'accompagnent d'une véritable chute morale. Le roi ne se borne pas à combattre les abus des hauts seigneurs et du clergé, il foule, il pressure le peuple. Ses légistes, on peut lui bâtir une exigeante théorie d'absolutisme. Dépouillant tout scrupule, il les a devancés dans les fêtes. Héritier d'un saint qui rendait la justice avec le ciel dans les yeux, Philippe ne songe qu'à soi, à sa puissance. Ce petit-fils du plus humain des rois a été, bien que craignant Dieu et en dépit de ses réels services, un prince étrangement sourd à l'humanité.